Donc, avec la formation qui est la mienne, le métier qui est le mien, on m'a proposé d'évoquer avec vous la propriété privée sous son aspect juridique. C'est l'introduction qu'on va faire. Alors, il y a certainement parmi vous, et je sais qu'il y a parmi vous des juristes, vous allez voir qu'on va enfoncer des portes ouvertes. Mais on va quand même se poser la question de cette question qui va nous occuper cet après-midi, savoir si la propriété privée est juste. Voilà. La propriété privée, en tout cas, est-elle juste ? Je vais définir la propriété privée sur le point de vue juridique, et on va, pour que ce soit un peu plus intéressant, on va la passer à l'épreuve du feu de la jurisprudence, de la justice. Qu'est-ce qu'en fait la justice ? Et comment est-ce que devant nos tribunaux, finalement, on est amené à parler, à plaider, à défendre le droit de la propriété privée, puisque c'est notre quotidien en tant qu'avocat. Alors, une introduction un peu historique sur le droit de propriété, puisque dès le droit romain, le droit de propriété repose sur trois piliers assez classiques en droit. Le droit romain et le code justinien au VIe siècle a repris aussi le droit de propriété sous cette forme-là. Trois piliers que sont, on le connaît toujours aujourd'hui, j'y reviendrai, que sont l'usus, l'abusus et le fructus. L'usus, c'est donc le droit d'utiliser son bien. On est propriétaire d'un bien, on a le droit d'utiliser. Le fructus, c'est le droit d'en récolter les fruits. Et l'abusus, c'est le droit, en droit romain, on imaginait même la possibilité de détruire son bien. En tout cas, c'est le droit de la possibilité de le céder, d'en faire ce que bon nous semble. Usus, fructus, abusus, et je disais que c'est toujours une triple composante qui est toujours actuelle, puisque encore aujourd'hui, on peut démembrer en droit français, au XXIe siècle, le droit de propriété, vous le savez. On peut être usufruitier d'un bien, et donc en avoir l'usus et le fructus, et laisser à un tiers ce qu'on appelle la nue propriété. Et on ne pourrait pas vendre un bien, céder un bien sans l'accord express, alors j'évite, mais du nu propriétaire. Voilà. Donc déjà, intrinsèquement, le droit de propriété repose sur trois bases, trois piliers. Et si on vient à supprimer une de ces bases, on se rend compte que si par exemple on n'a plus le droit de fructus, on ne peut plus retirer les fruits de notre bien, de notre patrimoine, eh bien, c'est plus vraiment du droit de propriété. Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver entre ces trois bases, et donc à l'intérieur même du droit de propriété, on a déjà un équilibre juste à trouver et à mettre en œuvre, et alors un équilibre encore plus juste à trouver lorsqu'il doit être mis en œuvre, lorsque effectivement on démembre la propriété et qu'il faut se mettre d'accord avec l'usufruitier, le propriétaire sur le devenir du bien, l'entretien du bien, etc. Donc ça c'est un peu général, mais il faut avoir conscience que c'est ce qui habite toujours, ce qui constitue toujours notre droit de propriété aujourd'hui, au moins d'un point de vue en France, au XXIe siècle. Alors je ne vais pas faire un historique long du droit de propriété, ce n'est pas mon travail. Je ne vais pas aborder la question du droit de propriété en période féodale, ni en régime collectiviste. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que le droit de propriété en lui-même, tel que je viens de le définir, le décrire, n'a jamais complètement disparu, même dans des régimes collectivistes, puisque certains en étaient privés, étaient dépossédés de leurs biens, ou dépossédés de la possibilité d'acquérir, mais une autre partie de la population, elle, bénéficiait de ce droit de propriété. C'est-à-dire la datcha de Staline appartenait à Staline, quoi, en entier. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, ce droit-là, cet équilibre-là, il se continue au cours de l'histoire, y compris à la période féodale. Période féodale où finalement, même si vous étiez serf, ou si vous étiez vassal, vous étiez dépossédé d'une partie de votre droit de propriété, mais en contrepartie, vous aviez la sécurité, vous receviez l'aliment de la part de votre seigneur. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même un équilibre qui se trouvait. C'est le seigneur qui était propriétaire, mais il y avait un équilibre qui se trouvait dans la contrepartie que vous receviez. Ce qui est notre droit aujourd'hui, il est pensé par le siècle des Lumières. Il se construit certainement en opposition avec à la tyrannie, à la monarchie, au droit absolu. Et le grand œuvre des Lumières, qu'ils n'ont pas vraiment connu, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, qui se construit pendant la Révolution française. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je fais juste une parenthèse, qui est véritablement un texte normatif qui n'est pas une déclaration de grands principes. On pourrait dire Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, non. Ça fait partie de notre constitution, la constitution de la Ve République. Et aujourd'hui, lorsque, par exemple, le Conseil constitutionnel doit contrôler une loi par rapport à la constitution, il contrôle aussi la loi par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Donc, je tiens à dire cela parce que souvent, dans les discussions, on entend dire que, effectivement, cette déclaration est une déclaration seulement de principe. Non, c'est vraiment un texte normatif qui a valeur à s'appliquer au quotidien et même à diffuser dans tout notre droit. Donc, je voulais appuyer, alors si vous avez l'occasion de relire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été votée sous les auspices de l'être suprême, et qui, en 17 articles, pas grand-chose, mais relisez-le, parce que c'est quand même notre histoire juridique, c'est pas très long, et ça remet un peu les pieds sur terre sur qui nous sommes, et quels sont nos droits fondamentaux. Et le 17e article, le dernier article, est celui qui va nous intéresser, puisqu'il dispose, je vais citer, que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Donc on a un texte en 89 qui consacre la propriété privée comme étant, c'est pas rien, un droit inviolable et sacré. Il y a peu de droits dans notre corpus juridique, dans notre système juridique, qui est défini avec tant de force. La propriété privée, c'est vraiment une institution au sens, on pourrait être le mariage par exemple, ou la filiation, hein, une institution de notre droit, un point cardinal, mais défini avec beaucoup de force. Inviolable et sacré. Toutefois, dans le même article, on a un balancement, puisqu'à la fois le droit de propriété, il est inviolable et sacré, et tout de suite, juste après une virgule, on vous dit que nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, l'exige de manière évidente. Voilà. Donc à la fois, c'est inviolable et sacré, et en même temps, si on a besoin de faire un barrage hydroélectrique pour faire l'électricité, si on a besoin de créer des voies de chemin de fer pour relier Paris à Aix-en-Provence en moins de 2 heures, en moins de 3 heures, ou si on doit faire des panneaux photovoltaïques, et que légalement on constate que c'est nécessaire pour le public, on parlerait aujourd'hui plutôt d'intérêt général, eh bien, la loi permet l'expropriation, on est indemnisé, parce que justement l'intérêt général le commande. Mais encore une fois, là, donc dans l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, on a un équilibre entre un droit qui est à la fois inviolable et sacré, et la possibilité de l'expropriation. Cet équilibre-là, mon geste parle de lui-même, c'est-à-dire qu'on est encore dans une idée de justice. Voilà. Alors plus concrètement, parce qu'au quotidien, on plaide rarement l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sauf si on fait une question prioritaire, merci, de constitutionnalité, ça c'est notre sujet. Mais plus concrètement, au quotidien, on va plutôt se baser sur le Code civil qui arrive rapidement après la déclaration de 89, le Code civil donc de 1804 de Napoléon, et l'article 544 du Code civil qui est inchangé hein, depuis, y compris dans sa numérotation, depuis 1804, qui dispose que, et vous allez voir à nouveau ce balancement dans l'article, que la propriété et le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. Donc c'est à la fois la possibilité de faire ce qu'on veut, tant qu'on ne méconnaît pas les règles prescrites par la loi et par les règlements. Donc à nouveau, on consacre un droit très fort dans la limite de la loi. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous empiétez chez le voisin avec votre mur, on va vous faire détruire votre mur. n'y a pas de sujet là-dessus. Le droit de propriété, il est défendu, même si le bon sens serait qu'un mur qui empiète, ça m'est arrivé de voir ça, un mur qui empiète de 1,5 cm, on pourrait se dire, bon, c'est pas très grave, sur une propriété de 10 hectares, bon, non, on fait détruire le mur, puisque l'empiètement, même un peu, court, empiète sur le droit de propriété et porte donc atteinte à ce droit. La limite, ce sont les lois et les règlements. Alors, comment est-ce que ça se traduit, concrètement devant les tribunaux ? Alors, il y a deux jurisprudences qui me sont venues à l'esprit, que l'on apprend en première année de droit, en cours d'introduction au droit. Un arrêt de la Cour de cassation de 1915, qui est l'arrêt Coquerel contre Clément Bayard. Donc, pendant que l'Europe était en train de s'assassiner dans l'est de la France, la Cour de cassation avait des questions importantes à traiter, et notamment en 1915, donc la question de l'abus de droit. Puisque, si je lis rapidement ce que dit cet arrêt, Coquerel a installé sur son terrain, attenant à celui de Clément Bayard, des carcasses de bois de 16 mètres de hauteur, surmontées de tiges de fer pointues. Donc on imagine ces carcasses de bois, 16 mètres de hauteur, avec encore derrière. Pourquoi ce monsieur Coquerel fait-il ça ? Que, juge la Cour, le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité, donc ça ne servait strictement à rien, c'était même pas esthétique, et n'avait été érigé que dans l'unique but de nuire à Clément Bayard, notamment pour l'empêcher de faire décoller depuis son terrain des montgolfières et des zeppelins. Parce qu'il faisait décoller, alors évidemment ce n'était pas des fusées, donc les montgolfières décollaient, puis elles obliquaient à l'horizontale, elles passaient au-dessus du terrain du sieur Coquerel, et le sieur Coquerel, ça l'embêtait terriblement. Donc il a construit ses carcasses avec des pic de fer, en disant comme ça embêtera bien mon voisin Clément Bayard, qui ne pourra plus faire passer ses zeppelins et autres ballons gonflables. La Cour de cassation dit non, que il y a en l'espèce abus de droit de la part de Coquerel. C'est-à-dire que certes, il est propriétaire, certes, il peut faire ce qu'il veut chez lui, mais il a abusé de son droit. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà de ce que son droit de propriété privée lui permettait de faire en voulant nuire à son voisin. Donc ça, c'est un arrêt ancien qui existe toujours, hein, qui est toujours de la jurisprudence constante. Il n'y a pas eu de revirement de jurisprudence, mais au fil du temps, la jurisprudence s'est affinée, puisqu'aujourd'hui, on plaide rarement l'abus de droit devant les tribunaux, mais on plaide plus facilement le trouble anormal de voisinage qui a été dégagé par la Cour de cassation en 1986 dans un arrêt de principe assez célèbre. La Cour de cassation, avant même d'aborder le fond du dossier, elle dit « Vu le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. » Alors ça, c'est un peu plus précis, le trouble anormal de voisinage, parce qu'il faut un trouble, il faut du bruit, de la poussière, voilà. Il faut que ce soit anormal. Alors là, on va débattre longtemps, souvent on passe par une expertise judiciaire pour savoir ce qui est normal et ce qui est anormal. Et il faut qu'il y ait une situation de voisinage claire. Vous pouvez pas agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage si vous n'êtes pas concrètement voisin et que vous n'êtes pas concrètement gêné. En l'occurrence, là, c'était une boulangerie qui faisait du bruit. Mais effectivement, aujourd'hui, un bloc clim qui fait du bruit dans une copropriété, c'est un sujet de trouble anormal de voisinage. Alors on fait venir un acousticien qui pose ses appareils et on voit si effectivement le bruit est plus élevé, moins élevé. Un jeune homme qui change des embrayages ou des amortisseurs dans le garage de ses parents dans la copropriété le dimanche après-midi et qui fait bien tourner la machine pour voir si ça fonctionne et que ça ne saute pas, ben là on peut dire oui, c'est un trouble anormal de voisinage. Est-ce qu'il est normal de faire de la mécanique le dimanche après-midi chez ses parents? Ça, je pense qu'il n'y a pas une audience à Aix, enfin moi pour les audiences que je connais, mais en France, où on ne plaide pas chaque jour, à chaque audience en tout cas, la question du trouble anormal de voisinage. Voilà. Sur le bruit, la poussière, et les choses aidant, je veux dire, l'individualisme avançant, on plaide de plus en plus la question du trouble anormal de voisinage, et on est de plus en plus sensible à cela. Et aujourd'hui, puisqu'il ne faut pas grand-chose pour faire de la musique et beaucoup de bruit, une petite enceinte suffit pour embêter tout le quartier, c'est assez fréquent. Voilà un rapide exposé sur le droit de propriété d'un point de vue juridique. Moi, il me semble que, d'une manière générale, le droit de propriété, vraiment, de mon point de vue, de point de vue de juriste, en tout cas, est juste, puisque la question est de savoir si la propriété privée est juste, dans le sens où elle est à la fois un droit absolu, un droit fondamental, qui a été construit, encore une fois, je le dis, pour se protéger de la tyrannie et de la monarchie absolue qui aurait voulu nous spolier, mais qu'elle s'insère, elle s'intègre dans un environnement. C'est pas un droit totalitaire. Voilà. Il faut penser aussi à son voisin. Et elle s'inscrit dans une globalité. La propriété privée, à elle seule, ne se justifie pas. Voilà. Toute seule, ne peut pas tout contre les autres. Ce qui m'amène à une réflexion d'actualité, à laquelle je n'ai pas de réponse, mais que je livre à votre sagacité, sur l'intelligence artificielle. Puisque la propriété privée, ce n'est pas uniquement les châteaux et les bois, mais c'est aussi la propriété intellectuelle, naturellement. Et voilà, qu'est-ce qui va devenir de nos biens, de la production intellectuelle avec l'intelligence artificielle ? Et mon attention a été attirée au mois de juin dernier d'un article du Monde qui relatait tous les procès en cours à ce sujet. Et vous avez notamment des artistes qui créent des contenus visuels ou qui créent du son et qui voient une partie de leur production reprise, notamment par le monde de la publicité. Et donc la publicité qui est un maelstrom de plusieurs créations originelles. Voilà. Et les juridictions se posent la question de savoir, voilà, est-ce qu'il y a eu atteinte au droit de propriété, dans quelle mesure ? Alors, ça paraît évident, mais face à l'intelligence artificielle, comment on va régler ça ? Quelle réponse on va y apporter ? Alors, ça intéresse les tribunaux américains, français, ça intéresse la Cour de justice de l'Union européenne, ça va nous intéresser tous. Moi, je pense que la propriété qui est créée de manière un peu violente à partir de biens d'autrui grâce à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on a pompé clairement le travail de l'autre, est-ce que cette nouvelle propriété qui est créée, ce nouveau bien qui est créé, est juste ou pas ? Je pense qu'il n'est pas complètement juste. En tout cas, il y a un équilibre à trouver pour permettre de la justice. Voilà. Je vous laisse avec cette question. Je vous laisse curieux de ce que dira la presse, de ce que diront les journaux sur cette question-là. Et puis, lorsque vous serez vous-même amené à utiliser l'intelligence artificielle, savoir si ce que vous avez créé est juste ou pas juste. Et pour vous aider peut-être aussi à répondre à cette question, on va aborder la question d'un point de vue théologique et philosophique avec le frère Patrick-Marie Bozo, sur toujours cette question qui nous intéresse cet après-midi, la propriété privée est-elle juste ? C'est bon ? Alors, on change de place.
Alors, je ne suis pas avocat et donc je ne me base pas sur le Code civil, mais plutôt sur des textes philosophiques et théologiques de différentes époques. Vous les avez derrière moi. Je suis plus grand, paraît-il. Un texte de saint Thomas d'Aquin. Je suis dominicain, donc on commence par saint Thomas d'Aquin pour poser le cadre. Un texte de la période moderne du philosophe anglais John Locke, qui est un incontournable sur cette question. Un texte beaucoup plus contemporain, tiré de l'enracinement chez la philosophe Simone Veil. Je rajouterai un extrait de texte en vis-à-vis de Simone Veil, un texte de saint François de Sales, mais bon, vous n'aurez pas d'extrait visuel. Alors, commençons par saint Thomas d'Aquin. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge, à l'époque des cathédrales et des cathédrales théologiques, comme la somme de théologie de saint Thomas. Alors, c'est l'époque où Dieu est au centre. Et la somme de théologie le montre, puisque, alors pour les plus connaisseurs, ce ne sera qu'un rappel, cette somme est en 3-4 parties. La première partie commençant par la question de Dieu. Est-ce qu'il existe et qui il est ? Dieu un et trine, ensuite la création, les anges et l'homme. La deuxième partie est la part, ce qu'on appelle la partie morale, avec une première partie de morale qui est la morale générale, la béatitude, les passions, les habitus, les vertus, le péché, etc. Deuxième partie de la deuxième partie, où on traite des vertus en particulier, la foi, l'espérance, la charité, qui sont les vertus théologales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Et la dernière partie étant la question du Christ et des sacrements. Alors la question de la propriété privée, eh bien, c'est dans la deuxième partie de la deuxième partie sur la vertu de justice. Et plus exactement, sur la question du vol. Le vol et la rapine. Pour chaque question, saint Thomas les traite en plusieurs articles. Donc je vous ai pris deux articles. Article 1, la possession des biens extérieurs est-elle naturelle à l'homme ? Article 2, est-il licite de posséder en propre un de ses biens ? Pour chaque article, saint Thomas pose des objections à sa réponse, ensuite il répond, et ensuite il trouve les solutions aux objections à sa réponse. Je ne vous ai mis que la réponse. Mais je vous lis les objections. Alors, la possession des biens extérieurs est-elle naturelle à l'homme ? Première objection, il ne semble pas, car personne ne doit s'attribuer ce qui appartient à Dieu. Donc, évidemment, cette époque, on met la primauté sur Dieu et les biens extérieurs appartiennent à Dieu. Deuxième objection, saint Thomas cite saint Basile, qui dans une homélie parle aux riches insensés de l'Évangile. Saint Basile l'interroge en disant « Dis-moi, quels biens sont à toi et d'où les as-tu pris pour les apporter en ce monde ?» Voilà. Donc, il n'y a pas de... Les biens ne sont pas à ce riche. Troisième objection, saint Thomas cite saint Ambroise, le nom de maître implique la puissance. Mais l'homme n'a aucune puissance sur les biens extérieurs. Il ne peut rien changer à leur nature. Si je n'ai aucune puissance, si je n'ai aucun pouvoir sur les biens extérieurs, ils ne sont pas à moi. Alors la réponse de saint Thomas, qui, pour ceux qui veulent lire saint Thomas, ne vous inquiétez pas, toutes les réponses à peu près commencent par... Il y a un double aspect, il faut distinguer. Donc les biens extérieurs peuvent être envisagés sous un double aspect. D'abord quant à leur nature, qui n'est pas soumise au pouvoir de l'homme, c'est ce qu'on vient de dire, mais de Dieu seul à qui tout obéit docilement. Puis quant à leur usage. Sous ce rapport, l'homme a un domaine naturel sur ses biens extérieurs, car par la raison et la volonté, il peut s'en servir pour son utilité comme étant fait pour lui. Alors, je ne sais pas si on peut faire la comparaison entre la nue propriété et l'usufruit. D'une certaine manière, la nue propriété est à Dieu. L'usage, eh bien, c'est à l'homme. C'est remis à l'homme parce qu'il a deux puissances spirituelles, la raison et la volonté. Et pour son utilité, je peux posséder, quant à leur usage, les biens extérieurs. Voilà. Ensuite, il y a un petit principe aristotélicien qui dit que les êtres imparfaits existent pour les plus parfaits. Bon, bah, voilà, la création, les êtres inférieurs à nous, sont faits pour nous. Voilà, ce serait plus très à la mode de dire ça comme ça, mais c'est ce que dit Aristote. Voilà. Donc, cette distinction, l'usage, retenez ça, l'usage fait qu'on peut être, d'une certaine manière, propriétaire. Alors, la réponse aux objections, eh bien, tout appartient à Dieu, oui, tout appartient à Dieu, mais pour l'usage, c'est l'homme. Réponse à la deuxième objection, le riche qui veut tout mettre dans ses greniers croyait que les biens extérieurs lui appartenaient à titre principal, comme s'il ne les avait pas reçus d'un autre, c'est-à-dire de Dieu. À titre principal, c'est à Dieu, et c'est pas à nous. À titre second, c'est à nous. Et la troisième réponse, l'objection vise la maîtrise qui s'exerce sur la nature même des choses extérieures. La maîtrise des choses extérieures n'appartient qu'à Dieu. Deuxième article, est-il licite de posséder en propre un de ses biens ? Première objection, selon le droit naturel, tout est commun. Les biens extérieurs sont aux biens communs et on ne possède rien en propre. Bon, voilà, les deux autres objections sont à peu près dans le même ordre d'idées. La réponse de saint Thomas. Deux choses conviennent à l'homme au sujet des biens extérieurs. D'abord, de pouvoir les gérer et d'en disposer. Et sous ce rapport, il lui est permis de posséder des biens en propre. C'est même nécessaire à la vie humaine. Donc, la propriété est nécessaire à la vie humaine. Les trois raisons. La première, chacun donne à la gestion de ce qui lui appartient en propre des soins plus attentifs qu'il n'en donnerait un bien commun à tous ou à plusieurs, parce que chacun évite l'effort et laisse le soin aux autres de pourvoir à l'œuvre commune. C'est ce qui arrive là où il y a de nombreux serviteurs. Alors, quand on est dominicain, on sent le poids de la vie commune qui est derrière saint Thomas. Une anecdote, quand je suis arrivé au couvent de Bordeaux, j'ai découvert dans le meuble où il y a les casiers des frères, donc un meuble où on remet le courrier aux frères, donc tout le monde passe devant tout le temps. Je vois dessus un essuie-glace dans sa pochette. J'ai su par la suite qu'un frère avait acheté un essuie-glace en trop, enfin disposait d'un essuie-glace, il ne savait que faire. Il l'a instinctivement posé sur un meuble et s'est dit, tiens, on va le laisser là, je vais voir combien de temps ça dure. Entre 5 et 6 ans. Voilà, un exemple concret. Si c'est à tous, ben je ne m'en occupe pas. Deuxième raison, il y a plus d'ordre dans l'administration des biens quand le soin de chaque chose est confié à une personne, tandis que ce serait la confusion si tout le monde s'occupait indistinctement de tout. Bon, je ne recommande pas, tout ça est du bon sens. Hein. La paix entre les hommes est mieux garantie si chacun est satisfait de ce qui lui appartient. Voilà, et la fin de la réponse, ce qui convient à l'homme au sujet des biens extérieurs, c'est d'en user, donc comme dans l'article précédent. Et sous tout rapport, l'homme ne doit pas posséder ses biens comme s'ils lui étaient propres, mais comme étant à tous. En ce sens qu'il doit les partager volontiers avec les nécessiteux. Aussi saint Paul écrit-il, recommande aux riches de ce monde de donner de bon cœur et de savoir partager. Voilà, donc on a un peu ce même... On retrouve toujours, en fait, ce balancier. Hein. Oui, il y a un droit à la propriété, mais il y a le bien commun. Et voilà, on peut reprendre l'histoire du catamaran de ce matin, hein, mais plus profondément même, hein, la propriété, en tout cas c'est très clair chez saint Thomas d'Aquin, est en vue du bien commun. Ça ne nous appartient pas en propre, c'est à Dieu, et c'est en vue de tous. Et dans les solutions aux objections, alors, la communauté des biens est dite de droit naturel, non parce que le droit naturel prescrit que tout soit possédé en commun et rien en propre, mais parce que la division des possessions est étrangère au droit naturel. Donc, la division des possessions n'est pas, ça ne fait pas partie du droit naturel chez saint Thomas. Elle dépend plutôt des conventions humaines et relèvera par là du droit positif. Ce n'est pas dans la nature humaine de devoir posséder. Ça relève du droit positif. C'est de l'ordre d'une convention pour la vie commune. Du même ordre que s'arrêter au feu rouge ne fait pas partie du droit naturel, c'est du droit positif qui permet à tous de vivre sans accident. La troisième réponse aux objections, il cite saint Ambroise, tout ce qui dépasse les besoins, on le détient par la violence. Donc ça va assez loin. Ce dont on n'a pas besoin, on le détient par la violence. On viole le droit naturel. Alors ensuite, on change d'époque. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, mais dans l'époque moderne, où on défend le droit de propriété face à la tyrannie. Une période moderne, voilà, où le John Locke, le philosophe anglais, alors on considère toujours Dieu, mais on focalise, hein, sur l'homme. Alors, toutes les créatures inférieures sont communes et appartiennent en général à tous les hommes. Ça, c'est toujours d'actualité. Pourtant, chacun a un droit particulier sur sa propre personne, sur laquelle nul autre ne peut avoir aucune prétention. Et donc, vous l'avez, le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous pouvons le dire, sont son bien propre. Tout ce qu'il a tiré de l'état de nature par sa peine et son industrie appartient à lui seul, car cette peine et cette industrie étant sa peine et son industrie propre et seule. Donc là, on va un peu plus loin. Tout est à tout le monde, mais lorsque la personne travaille, transforme la nature, alors c'est à lui. Une appropriation par le travail. Alors il prend une situation pour illustrer. Un homme qui ramasse des pommes qu'il cueille sur des arbres dans un bois se les approprie certainement. Ben, une fois qu'il les a mangées, il n'y a plus de questions à se poser, elles sont à lui, ça c'est sûr. Je demande donc, quand est-ce que les choses qu'il mange commencent à lui appartenir ? Lorsqu'il les digère, lorsqu'il les mange, lorsqu'il les cuit, ce qu'il les porte chez lui ou ce qu'il les cueille. Son travail, vous l'avez, son travail distingue et sépare alors ses fruits des autres biens qui sont communs. Il y ajoute quelque chose de plus que la nature. La mère commune de tous, ni ami, et par ce moyen, ils deviennent son bien particulier. Donc, on voit en arrière-fond, hein, c'est la période moderne, donc l'homme est maître et possesseur de la nature. Et dès qu'il commence à transformer la nature, il y ajoute quelque chose. Ce que la nature donne, c'est à tous. Ce que moi je donne à la nature, c'est à moi. Alors quand même, tout ça est vu dans un bien plus grand. La raison nous dit que la propriété des biens acquis par le travail doit donc être réglée selon le bon usage qu'on en fait pour l'avantage et les commodités de la vie. Si l'on passe les bornes de la modération et que l'on prenne plus de choses qu'on en a besoin, on prend sans doute ce qui appartient aux autres. Donc il y a toujours cette idée que on ne doit pas prendre, posséder plus que ce dont on a besoin. Néanmoins, il y a un glissement. Chez saint Thomas, tout est commun, mais pour le bon usage, on considère un droit de propriété. Pour John Locke, on considère un droit de propriété, mais pour le bon usage, on considère que ça va à tous. Il y a une insistance sur l'appropriation par le travail. C'est dans la nature de l'homme de transformer la nature et donc de posséder. En général, dans le milieu catholique, eh bien, on préfère un philosophe et théologien qui soit un saint. Donc on se rangerait volontiers, même si ça dérange un peu, l'avis de saint Thomas d'Aquin. Mais dans une époque contemporaine, il y a quelqu'un qui a aussi défendu le droit de propriété, c'est Simone Veil. Alors, Simone Veil, voilà, 1909-1943, elle était enseignante et elle, on le sait, on le va prendre dans toute sa dureté, la condition ouvrière. Elle connaît le travail à la chaîne, et même le travail agricole. Et elle réfléchit sur le sens du travail. Donc elle est dans cette idée qu'il faut défendre l'ouvrier qui, lui, n'a plus rien à voir avec ce qu'il produit. Il en est arraché. Il n'a pas le temps Ce n'est plus un artisan, il n'a pas le temps de contempler son œuvre, de se l'approprier. Ça devient en quelque sorte inhumain de lui arracher ce qu'il produit. Et donc Simone Veil affirme que la propriété privée est un besoin vital de l'âme. L'âme est isolée, perdue, si elle n'est pas dans un entourage d'objets qui soit pour elle comme un prolongement des membres du corps. Tout homme est invinciblement porté à s'approprier par la pensée tout ce dont il a fait longtemps et continuellement usage par le travail, le plaisir ou les nécessités de la vie. Ainsi, un jardinier, au bout d'un certain temps, sent que le jardin est à lui. Mais là où le sentiment d'appropriation ne coïncide pas avec la propriété juridique, l'homme est continuellement menacé d'arrachement très douloureux. Donc il y a un sentiment d'appropriation que tout le monde peut constater. Hein. Voilà, si une maison n'est pas à vous, mais que vous la transformez radicalement parce que vous passez 10 ans à travailler dessus, si on vous l'arrache du jour au lendemain, il y a un sentiment d'injustice. Non, je l'ai transformée, elle est à moi, cette maison. Et Simone Veil veut que la propriété juridique suive, d'une certaine manière, ce sentiment d'appropriation. Si on se considère dans la condition ouvrière, oui, il faut défendre cela. Si on prend du recul, on peut se demander quelle est la valeur morale de ce sentiment d'appropriation. Je vous prends un texte de vie spirituelle, hein, l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales. Ô Philothée, est-il bien légitime de désirer posséder en toute justice ce qu'un autre possède en toute justice? Alors, posséder en toute injustice, là, ok, c'est mal. Mais il vient quand même d'affirmer que même avoir envie de posséder en toute justice, c'est pas si bien que ça. Donc le sentiment d'appropriation par le travail, la question se pose, quelle est sa valeur, sa valeur morale? Est-ce que c'est toujours de la convoitise? Est-ce que ce désir d'appropriation fait partie de la nature humaine? Est-ce qu'il fait partie de la nature humaine déchue? Est-ce que ce sentiment de devoir, même en toute justice, s'appauvrir d'un bien qui a priori serait à nous, est-ce que c'est de l'ordre de la grâce, et purement de la grâce, ou est-ce qu'il y a une disposition humaine? Voilà, là il y a une vraie question à laquelle je ne prétends pas répondre aujourd'hui. Vous aurez sûrement d'autres éléments de réponse. Parce qu'on va entendre parler du travail. Voilà, j'ai fait mon tour d'horizon. Je laisse M. Paul nous dire un mot sur la doctrine sociale.
Puisqu'on a abordé donc la question juridique, et puis la question théologique et la question philosophique, mais se pose la question de concrètement, ma propriété privée, à moi, chrétien, est-elle juste ? On peut se poser cette question-là. Et la doctrine sociale de l'Église, alors vous avez eu un enseignement, une conférence, je crois, ce matin, où, à ce sujet, vous savez que c'est une réponse de l'Église, c'est la réponse de l'Église sur les questions sociales, les questions de société. Ce n'est pas une réponse dogmatique, mais c'est la réponse que l'Église apporte aux évolutions de la société, depuis la révolution industrielle jusqu'à la crise climatique, pour faire large. Et donc, on a la doctrine sociale envisage la propriété privée sous l'angle du bien commun et sous l'angle, pardon, de la destination universelle des biens. Donc, c'est ce qui a été dit à l'instant. La destination universelle des biens. Et donc, comment est-ce que ma propriété s'inscrit à ce sujet-là? Et moi, je vous réponds, je vais vous parler avec un langage de chrétien, de réflexion que j'ai pu avoir sur des questions assez concrètes, puisqu'elle renvoie ensuite, donc destination universelle des biens, propriété privée, et la doctrine sociale renvoie à la question de la pauvreté. Voilà, et ce triptyque-là. Et se pose des questions simples, hein, sur ma maison secondaire, par exemple. Donc là, je rentre dans le concret. Quel est mon rapport à ma maison secondaire? Voilà. Quel est le rapport à un héritage que je reçois, que je touche de mes parents? Est-ce qu'il est plus important de préserver cette maison de famille, de garder cette maison de famille, ou de garder des relations saines avec mes frères et sœurs? Je pose cette question un peu brute de décoffrage, mais elle est quotidienne dans mon travail. Et c'est vrai que vous pouvez tirer le diable par la queue, avoir du mal à payer votre taxe foncière ou votre pension alimentaire, ou la pension alimentaire pour vos enfants, mais contre rien au monde, vous ne sépareriez du chalet au ski, à la montagne. Donc ça, c'est voilà. Alors que d'autres, peut-être, auraient plus de possibilités financière, plus de temps pour en profiter, on aurait plus besoin, de ce bien immobilier perdu dans la Dordogne où vous n'allez jamais. Donc ça, c'est un sujet. Ou par exemple, sur la question plus simple et plus courante du prêt d'un livre, quand vous prêtez un livre, voilà, prêtez un livre. Vous avez ces livres qui sont enfermés dans vos bibliothèques, que personne ne lit, que vous avez lu et que vous relirez un jour, et vous en parlez entre le fromage et le dessert avec vos hôtes, et vous dites, tiens, je vais te le prêter, mais il faut que tu me le rendes. Voilà. Finalement, si vous prêtez ce livre en vous disant que potentiellement on ne vous le rendra jamais, mais il aura été lu et vous aurez fait connaître un auteur à votre invité, vous dites, voilà, ce bien qui m'appartient, qui est ma propriété, si je fais un pas de recul et que je le regarde avec la destination universelle des biens, est-ce que je suis prêt à m'en appauvrir ? Voilà. Est-ce que je suis prêt à m'en appauvrir ? Cette propriété privée, est-ce que je suis prêt aussi à m'en appauvrir ? Bon. Voilà, donc c'était la conclusion que moi je voulais faire sur la doctrine sociale de l'Église. En fait, on vous a donné les textes, n'hésitez pas à rentrer dans ces textes-là, de les lire un peu, de les méditer, de les remâcher, et surtout de les confronter avec, je sais pas, votre livret A ou votre maison secondaire. Bon, ça c'est mon... Voilà, je suis un peu franc, mais... voilà. Et puis surtout les confronter avec votre foi. Bon, ça c'est mon... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et quand on reçoit, et je finis là-dessus, quand on reçoit en consultation des clients qui sont arc-boutés sur leurs biens, sur leurs propriétés, et qui veulent savoir comment en gagner davantage, quitte à écraser le voisin, c'est toujours intéressant de se replonger là-dedans, dans ces textes-là, et de se dire, mais quelle est l'origine de ma foi, et qu'est-ce qui finalement va me... Quel exercice de pauvreté concret, moi, je peux faire. C'est pas uniquement faire l'aumône et faire un chèque au CCFD, mais concrètement, moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon regard vis-à-vis de la propriété privée. Voilà. C'est tout ce que je voulais conclure. Après, le frère Patrick Marie va vous... peut conclure aussi, de manière... Juste un exemple à donner.
Quand j'étais au couvent de Lyon, un vieux frère, qui avait confessé pendant de longues années, me disait, le péché que l'on entend le moins, c'est l'avarice. Personne ne se confesse d'avoir trop d'argent. Alors, pour répondre à la question, la propriété est-elle juste ? Oui, on l'a vu, avec le bien commun, etc. Faut-il tout renverser ? Non, faut la convertir, tout simplement. Le rapport que moi j'ai avec ce que je possède est toujours à convertir. Voilà, je vous remercie.